les grands discours des hommes de ce monde, grands dans le sens de discours mémorables, sont souvent liés à la personnalité, à la personne des hommes qui les ont prononcés. On pense, par exemple, au discours « I have a dream » de Martin Luther King, prononcé le 28 août 1963 à Washington, ou bien le « Yes, we can » plus récemment de Barack Obama lors de la primaire des élections américaines de 2008, ou encore les mots du général de Gaulle à Alger en 1958, « Je vous ai compris ». Ces discours, qui d'ailleurs ne sont pas toujours suivis d'effets positifs, ont marqué l'histoire de notre monde. On pourrait en citer bien d'autres. J'ai pris des discours de ces dernières décennies, mais il y en aurait sans doute bien d'autres que l'on pourrait citer. On peut penser aussi, plus proche de nous, au discours politique de nos dernières élections en 2017. Là aussi, ces discours programmes sont par la suite plus ou moins mis en pratique concrètement. Quand les hommes ou les femmes politiques se retrouvent au pouvoir. Quel est le discours le plus connu de Jésus? C'est sans doute celui qu'on appelle le Sermon sur la montagne. C'est certainement une compilation de paroles de Jésus rassemblées par l'apôtre Matthieu au début de l'évangile. Et dans ce Sermon sur la montagne, on trouve en quelque sorte le programme de vie que Jésus propose à ses disciples pour vivre selon le royaume de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Nous allons lire les deux premiers versets pour l'instant. Donc, premier livre du Nouveau Testament, évangile selon Matthieu, chapitre 5. Versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et on a là tout un discours, probablement plusieurs discours résumés, jusqu'au chapitre 7, jusqu'à la fin du chapitre 7 de cet évangile selon Matthieu. Et pour certains, peut-être la plupart d'entre nous, nous connaissons au moins quelques-uns de ces passages. Les béatitudes, les formules « vous avez entendu dire, mais moi je vous dis », Jésus qui parle, « tendre l'autre joue », la prière du Notre Père, le fou qui bâtit sa maison sur le sable, etc., etc. Cet automne, notre église locale fête ses 20 ans d'implantation dans la ville du Blanc-Mesnil. Et avec ce sermon sur la montagne, nous allons pour cette année 2017-2018 revenir aux fondamentaux de notre appel chrétien, de notre mission, de notre action. 20 ans, c'est l'occasion de revisiter ces enseignements de Jésus-Christ dans le Sermon sur la montagne, enseignements pas toujours bien compris et pas toujours mis en pratique. Alors, où se situe ce sermon, Sermon sur la montagne? Matthieu le place au début du ministère public de Jésus, comme le premier grand discours de Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, il y a 5 grands discours de Jésus qui rythment cet évangile. Juste après avoir été baptisé, au chapitre 3, juste après avoir été tenté par le diable dans le désert, Matthieu chapitre 4, Jésus commence à prêcher la bonne nouvelle selon laquelle le royaume de Dieu, promis depuis longtemps dans l'Ancien Testament, s'est enfin approché, et lui, Jésus, est venu l'établir. Au chapitre 4 de Matthieu et au verset 17, nous lisons « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et puis on voit que sa renommée se répand dans toute la région et que les foules commencent à venir en masse écouter son enseignement, recevoir de sa part des guérisons. Et cette foule qui est là, c'est celle que Jésus voit. Et à ce moment, il monte sur la montagne pour enseigner. Et c'est cela que nous allons étudier pendant cette année. Jésus est venu appeler des hommes et des femmes de son temps pour que ces hommes et ces femmes changent de vie. Comment ? En recevant par la foi en lui le pardon de leurs péchés pour pouvoir suivre son exemple d'homme parfait selon Dieu. Et les disciples de Jésus, les vrais disciples, on aura l'occasion de voir dans le sermon sur la montagne qu'est-ce que c'est un vrai disciple. Les vrais disciples sont fondamentalement différents des autres hommes et femmes de ce monde. On voit par exemple dans Matthieu chapitre 6 verset 8, Jésus dire à ses disciples, ne leur ressemblez pas aux autres, ne ressemblez pas à tout le monde. Alors il ne s'agit pas seulement d'être différent parce que ce serait à la mode d'être différent et de ne pas suivre la foule. Il faut vraiment se convertir, faire demi-tour dans sa vie, se repentir, prendre conscience de notre vie de pécheur devant notre Créateur. Et cela implique de faire de nouveaux choix, les bons choix, ceux qui sont dignes du royaume de Dieu. Ainsi, notre changement de vie doit briller comme une lumière dans ce monde. Notre vie doit lutter contre la corruption qui nous environne ou qui pollue notre vie bien souvent. Alors, pour cette première prédication sur le thème de l'année, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13 ce texte qui va nous servir de thème pour notre année. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce sont ces deux paroles, ces deux images qui vont nous accompagner tout au long de cette année pour nous encourager personnellement et au niveau de la communauté à être sel et lumière dans ce monde. Lisons donc Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ou la salera-t-on ? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné par les gens. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le cache-lampe, sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà notre texte de ce matin. Des paroles courtes, mais j'espère percutantes. Et nous allons les étudier en trois temps. D'abord en regardant quel regard Jésus porte sur notre monde. Jésus est le monde, premier point. Deuxièmement, comment les disciples de Jésus se positionne-t-il par rapport à ses paroles ? Jésus et ses disciples. Et troisièmement, quelle est la mission des disciples ? Les disciples et le monde. Donc, premier temps, Jésus et le monde. Deuxième temps, Jésus et ses disciples. Troisième temps, les disciples et le monde. Quel regard Jésus porte-t-il sur notre monde ? Eh bien, Jésus a une vision négative du monde. Le monde est dans l'obscurité, nous dit-il. Alors, c'est une image, n'est-ce pas ? Si on regarde dehors ou dans cette salle, il y a de la lumière. Jésus ne parle pas de l'obscurité de la nuit ou du manque d'électricité, mais du mal qui assombrit et qui déforme la belle création de Dieu. Et dans cette obscurité, tout être humain tâtonne et cherche des repères. Aucun être humain ne fait parfaitement ce qui est bien devant Dieu. L'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Romains, « Il n'y a pas de distinction entre les hommes, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains chapitre 3, verset 23. Pour Jésus, le constat est sans appel. Le monde va mal, il est dans l'obscurité. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bien sur cette terre. La plupart des hommes ont leur part de bonté et réalisent de belles choses. Mais ce bien, ce beau, dans la vie de tout être humain, ne parvient pas à renverser cette tendance incrustée au cœur de l'être humain à faire le mal. Et c'est ce que la foi chrétienne appelle le péché originel, cette part de révolte contre notre Créateur, qui nous plonge dans les ténèbres et dont nos meilleures intentions et nos efforts ne parviennent pas à nous sortir. Et dans ce sens, les plus beaux discours que notre monde a connus, politiques, humanistes, pacifiques, etc., sont à la fois d'une grande noblesse et impossibles à réaliser. Noble et impossible à réaliser parce que le péché est là, dans le cœur humain. Eh bien, c'est dans ce monde-là, notre monde, enténébré, obscurci par le mal et la mort, que le Fils de Dieu s'est incarné. C'est dans notre humanité corrompue par le mal que Jésus est venu comme une lumière. L'apôtre Jean parle souvent de la lumière. Je vous lis juste quelques extraits, ne cherchez pas au début de l'évangile selon Jean. Au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un petit peu plus loin, Jean 1, verset 11, « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non d'une filiation de sang, mais de la volonté de Dieu. » Et puis, dans son dialogue avec le religieux Nicodème, Jésus dit, Jean 3, verset 19, « Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal et a de la haine pour la lumière ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ses œuvres sont faites pour Dieu. » Lumière, ténèbres. Encore un petit peu plus loin dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 12, Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. » Ça doit rappeler quelque chose aux jeunes du caté, ça. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est la lumière du monde. Ce Jésus qui prononce ce discours, ce sermon sur la montagne, n'est pas comme les Martin Luther King, Général de Gaulle, Barack Obama ou autres, bien intentionnés, mais limités par l'obscurité qui est dans leur cœur. Jésus est la lumière. Il n'y en a qu'une. La lumière du monde. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres, pas de mal. Il met parfaitement en pratique ce qu'il enseigne. Il tient toujours ses promesses parce qu'il est l'homme qui accomplit sans faute la volonté de Dieu. Ceci est fondamental pour comprendre l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne cette année. Jésus n'est pas un humaniste de plus ou un super bienfaiteur de l'humanité. Il est la lumière du monde. Et c'est son œuvre à lui, Jésus, qui donne sens à cette phrase que nous étudions ce matin. Vous, vous êtes la lumière du monde. Alors voilà un défi qui est devant nous pour cette année 2017-2018, défi que je reprendrai tout à l'heure aussi en conclusion. En étudiant ce sermon sur la montagne, dans nos groupes de quartier, dans les prédications une fois par mois, nous avons à mieux comprendre qui est Jésus et comment le suivre comme disciple, et ça, et pas simplement comme croyant. Et on essaiera de voir quelle différence il y a entre croire en Jésus et être disciple de Jésus. Alors comment faire? Comment ça se passe pour suivre Jésus vraiment? La réponse est dans le premier texte que nous avons lu. Il nous faut nous approcher de lui. Et là, je passe au deuxième point. Le premier point, c'était Jésus et le monde. Deuxième point, Jésus et ses disciples. Matthieu, chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Ses disciples s'approchèrent de lui. Il y a donc autour de Jésus deux cercles qui se dessinent. Un premier cercle, tout près de lui, ceux qui veulent comprendre et suivre son enseignement, c'est-à-dire obéir. Et puis un deuxième cercle, les autres, les foules, qui écoutent mais de loin. Face à Jésus, il y a donc deux groupes d'auditeurs, parce qu'un premier tri s'est déjà effectué entre ceux qui veulent aller plus loin avec Jésus mais qui se rapprochent de lui, et ceux qui se disent, non, moi j'ai un peu comme au poker, hein, je paye pour voir, j'attends de voir, voilà. Écouter Jésus, oui. Être guéri, oui. Lui obéir, on va voir. Donc, lorsque Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde, c'est au premier cercle d'auditeurs que Jésus s'adresse en priorité. C'est-à-dire ceux qui se sont approchés pour faire partie du royaume de Dieu. Les foules sont elles aussi invitées à se rapprocher pour devenir disciples de Jésus et ne pas rester des gens simplement intéressés ou en cheminement, comme on dit souvent, mais vous savez, à force de cheminer, on est en errance. Et on peut rester toute sa vie en cheminement et ne jamais arriver à bon port. Donc qu'est-ce que ça veut dire « je suis en cheminement spirituel » ? Jésus invite ces gens, ces foules, à ne pas être simplement des adeptes, ou des fans, ou des touristes, ou simplement des curieux en matière de spiritualité. Et notre monde est friand de spiritualité. Les gens autour de nous sont curieux, et souvent ouverts en termes de spiritualité, mais ouverts à tout et n'importe quoi. Les auditeurs principaux, ceux à qui l'enseignement sur la montagne, le sermon sur la montagne est d'abord adressé, ce sont les disciples. Ce qui nous amène à la question, à quel cercle d'auditeurs appartenez-vous ce matin? Appartenons-nous? Celui des disciples ou celui des gens en cheminement? Mais où est-ce que vous êtes en chemin? Loin, proche du cercle disciple, mais pas encore dans le cercle des disciples. Il y a donc là une invitation pour chacun de nous à entrer ou à rester dans le cercle des disciples de Jésus. À se convertir, c'est-à-dire à renoncer à être nous, par nous-mêmes, la lumière de notre propre vie ou le maître de notre propre vie, et à prendre à la suite de Jésus, le vrai maître, notre place de disciple. C'est lui, Jésus, qui est la lumière du monde. Et nous sommes invités à recevoir de la part de Jésus cette lumière que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes parce que le mal assombrit et corrompt nos bonnes intentions. C'est en recevant la lumière du Christ sur notre vie qu'elle peut changer. Et c'est à cette condition seulement que Jésus nous dit à nous aussi, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tout disciple est d'abord quelqu'un qui est lui-même sorti de l'obscurité par Jésus pour recevoir sa lumière. Jésus nous sort de l'esclavage du péché pour que nous puissions être sel et lumière du monde. Et c'est en étant proche du Christ que le sel produit son effet. Sinon, il devient fade. Littéralement, le texte dit « le sel devient fou ». Ça ne veut rien dire, le sel qui devient fou. C'est-à-dire, le sel perd son sens, perd sa raison d'être. Un sel qui n'est pas du sel, c'est n'importe quoi. Et donc, il est bon à être jeté et on le piétine, comme du vulgaire sable. C'est seulement dans une vraie relation avec Jésus que la lumière brille pour éclairer la maison. Sinon, sous un cache, une lampe ne sert à rien. C'est seulement avec Jésus que les disciples, les chrétiens, l'Église peuvent accomplir la mission que Jésus leur confie, être sel et lumière. Notez que tout ce qui se fait, tout ce qui se prie ou tout ce qui se chante au nom de Jésus ne se réalise pas forcément avec Jésus ou avec l'approbation de Jésus. C'est lui le roi, c'est lui le maître et nous, notre place vient à son service. Quel est alors notre rôle en tant que disciple? Quelle est notre mission? Et ce sera le troisième et dernier point ce matin. La mission des disciples, ou dit autrement, les disciples dans le monde. Regardons de plus près les deux images que Jésus utilise dans notre texte pour parler du rapport qu'il y a entre ses disciples et le monde. Nous avons vu ce que Jésus pense du monde, de la terre. Elle va mal. Nous avons vu aussi que parmi tous les gens qui sont dans l'obscurité, Jésus vient appeler des hommes et des femmes pour être proches de lui, pour passer des ténèbres à sa lumière. Et maintenant, dans notre texte, il appelle ceux qui se sont approchés de lui à être sel et lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? L'image du sel. Spontanément, le sel peut évoquer pour nous la saveur. Quand nous mettons du sel dans un plat, c'est pour en relever le goût, n'est-ce pas? Si l'on en met trop, le plat est immangeable. Mais s'il n'y a pas de sel, le plat est fade, sans saveur. Et dans un sens, on pourrait dire que la présence des disciples de Jésus dans ce monde fait que ce monde, qui va mal, n'est pas aussi fade qu'il pourrait l'être. Et ainsi, les disciples, les chrétiens, sont précieux pour ce monde, car ils lui donnent ou ils lui redonnent du goût. Ces dernières semaines, nous avons acheté un pot de pâte de piment rouge qui prétend contenir 90% de piment. Eh bien, cette pâte de piment n'a aucun goût. Du coup, il reste dans le frigo et il ne sert à rien. Et probablement, il attend de moisir. Et quand il sera moisi, on se dira, tiens, c'est moisi, on le jette à la poubelle. Vous voyez, c'est un peu ça l'image que Jésus donne. J'ai acheté du piment et quand je le mets sur ma viande, je me rends compte que c'est pas du piment. Ça a le nom de piment, mais ça n'a pas le goût du piment. Et donc il reste dans le frigo et il attend d'être jeté. Dans le même sens, On peut penser à l'usage du sel dans l'Ancien Testament. On salait les sacrifices pour leur donner de la valeur et du prix. Hein, donc, le sel a du goût, le sel a de la valeur, du prix. Et ces deux manières de comprendre l'image du sel, le goût et le prix, rejoignent ce que disent aussi l'évangile selon Marc et l'évangile selon Luc. Marc et Luc citent aussi cette parole de Jésus qui valorise le sel pour lui-même. Par exemple, Marc nous dit au chapitre 9 et au verset 50, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Il y a une troisième manière de comprendre cette image du sel qui, me semble-t-il, convient mieux à notre passage de Matthieu chapitre 5. Avant d'être quelque chose de précieux et avant de donner du goût, le sel est surtout à l'époque un conservateur. C'est-à-dire que pour Matthieu, le sel n'est pas une image qui doit attirer l'attention sur les qualités du sel pour lui-même, mais une image qui doit attirer l'attention sur les qualités du sel à cause de son influence sur le plat ou sur le monde. Jésus ne dit pas seulement « vous êtes du sel » ou « vous êtes le sel ». Il dit « vous êtes le sel de la terre ». « Vous êtes la lumière du monde ». Le sel de la terre, c'est ce qui en retarde le pourrissement. Le pourrissement du monde est inévitable. C'est le constat de Jésus. Le monde est dans l'obscurité. Mais il y a dans ce monde, depuis la venue de Jésus, une œuvre qui se réalise, qui s'appelle le royaume des cieux. C'est comme ça que Matthieu parle du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est son expression favorite. Un règne de paix, de justice et d'amour que Jésus, le roi, est venu inaugurer en personne. Cette œuvre de Dieu, son royaume, l'Église, n'empêche pas le monde d'aller mal. Le monde est encore dans l'obscurité. Nous fêtons cette année, pas seulement nos 20 ans à Blanc-Mesnil, mais les 500 ans de la réforme de l'Église. Pourquoi l'Église a eu-t-elle besoin d'être réformée, si ce n'est parce qu'elle est aussi dans l'obscurité? Elle a aussi sa part d'ombre, de péché, de mal. Et l'Église doit être constamment en train de se réformer. Jésus est constamment en train de nous réformer, de nous changer, de nous transformer, parce que le mal nous attire toujours loin de Dieu. La présence des chrétiens dans ce monde permet à ce monde de ne pas pourrir aussi rapidement qu'il le pourrait. Afin que tous ceux qui doivent entrer dans le premier cercle, celui des disciples de Jésus, puissent le faire. 1 Timothée chapitre 2 verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et c'est pour cela qu'il nous appelle à être sel et lumière du monde. On ne devient pas disciple de Jésus seulement pour soi-même, mais aussi pour ce monde qui meurt à petit feu. Dans Matthieu, le sel, l'image du sel, c'est d'abord un conservateur. Et si le sel perd sa qualité de conservateur, il ne fait plus aucune différence. Il ne sert donc plus à rien. On peut le jeter et le piétiner. Ça, c'est une parole pour ceux qui disent « Jésus, Jésus !» mais qui ne vivent pas selon sa volonté. Ils veulent passer pour du sel, mais ils ne sont que du sable Ils n'influencent personne parce qu'ils font comme tout le monde. Ils se disent chrétiens, mais ils mentent, ils critiquent, ils volent, ils magouillent, ils vivent selon leurs propres critères, comme tout le monde. Et pas selon les règles du royaume de Dieu. Quand je préparais cette prédication, j'étais à la médiathèque du Blanc-Mesnil, et en levant les yeux, j'ai vu en face de moi une photobiographie de Martin Luther King. Voilà. Je vous lis un court extrait, une citation. Il dit en 1963 « Tout chrétien qui accepte aveuglément les opinions de la majorité et qui, par peur et par timidité, recherche son intérêt personnel et l'approbation de la société, est un esclave intellectuel et spirituel. » Je relis. « Tout chrétien qui accepte aveuglément les opinions de la majorité et qui, par peur et par timidité, recherche son intérêt personnel et l'approbation des autres de la société, est un esclave intellectuel et spirituel. » Et je crois qu'il a raison. Matthieu, l'évangéliste, hein, s'intéresse aux disciples qui sont du sel en tant qu'ils influencent le monde. D'où un choix de traduction important à notre verset 13. Peut-être la version de la Bible que vous avez sous les yeux dit « Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? » Dans beaucoup de traductions, c'est traduit comme ça. Mais on peut aussi traduire, et je pense que c'est préférable, si le sel devient fade, avec quoi la salera-t-on, c'est-à-dire la terre. Je remercie le pasteur Eric Zander qui m'avait fait découvrir ce point du texte lors d'un congrès France Mission. Le but de Matthieu, ce n'est pas de nous dire « Jésus vous a sorti de l'obscurité pour vous mettre dans un pot de sel, l'église. » Le bâtiment, hein. Nous ne sommes pas les gardiens du goût dans le pot de sel. Nous avons à sortir du pot de sel pour être utiles au monde, à notre monde. Dans ce sens, vous pouvez lire l'affiche qui est sur la porte d'entrée et qui nous dit que au-delà de cette porte d'entrée, nous entrons dans notre champ de mission. Le culte qui nous rassemble ce matin fait partie de notre mission, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant. Nous prenons des forces ce matin pour aller dans notre champ de mission, pour être sel et lumière dans notre monde et pas seulement dans le pot de sel. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. C'est donc dans nos foyers, sur notre lieu de travail, le matin quand nous croisons nos voisins, le soir quand nous allons chercher nos enfants à l'école, et pas seulement quand nous sommes réunis dans le pot de sel le dimanche, que nous sommes sel de la terre. C'est dans tous ces lieux de vie, à tous ces moments de la journée, que nous avons à témoigner d'une vie transformée par Christ, à montrer qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché, et que c'est pour cette raison que nous cherchons à mettre en pratique son enseignement. Et c'est pourquoi nous luttons contre cette tendance naturelle à faire comme tout le monde, dans nos paroles, dans nos choix professionnels, amoureux, sexuels, dans l'éducation de nos enfants, etc. Et la deuxième image de Jésus va dans le même sens. Il faut comprendre ces deux images ensemble, le sel et la lumière. Quelques mots sur l'image de la lumière, quelques mots plus courts. La lumière révèle ce qui est caché. Ce n'est pas, là encore, pour elle-même que la lumière brille, mais, vous l'avez noté dans le texte, pour tous ceux qui sont dans la maison. Pourquoi la lumière de notre foi doit-elle briller? Pas seulement pour revendiquer notre fierté et notre différence, mais pour que les autres, nous dit encore le texte, voient notre comportement radicalement différent et glorifient Dieu. Le monde, notre monde, est dans l'obscurité, constate Jésus. Eh bien, grâce à sa lumière, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Cette lumière qu'il donne à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ceux de nos voisins, de nos collègues, qui, eux, tâtonnent encore dans l'obscurité, commencent à notre contact à voir plus clair, parce qu'ils trouvent en nous une lumière qu'ils n'ont pas. Ils peuvent se dire, en nous voyant vivre, et pas seulement en écoutant nos beaux discours, en nous voyant vivre comme chrétiens, disciples du Christ, que cette lumière que nous avons en nous grâce au Christ, eux, ils ne l'ont pas. Mais si nous ne brillons pas, parce que nous vivons comme tout le monde, préoccupés sans cesse par nos fins de mois, déprimés par tous les malheurs du monde, et il y en a en ce moment, on l'a évoqué tout à l'heure, déprimés par la météo, si nous ne cherchons pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6, 33, on étudiera ces versets. Si nous raisonnons et nous vivons comme tout le monde, nous sommes comme cette lampe qu'on allume pour la cacher, ou comme ce sel qui finalement ne sale rien du tout. Nous ne faisons aucune différence dans ce monde qui reste alors dans l'obscurité et dans son pourrissement. Nous pouvons nous réjouir ensemble pendant une heure et demie le dimanche de nous retrouver dans le pot de sel, mais qu'est-ce que ça change pour nos voisins? Qu'est-ce que ça change pour nos collègues, pour nos amis? Qu'est-ce que cette église locale change dans la ville du Blanc-Ménil depuis 20 ans? Qu'est-ce qu'elle va changer dans les 20 prochaines années? Est-ce que notre assemblée et est-ce que notre témoignage personnel fait une vraie différence? Ou est-ce que nous passons simplement inaperçus? Et donc nous sommes bien sympathiques, mais ça ne changerait. Comment sommes-nous sel et lumière ici, où Dieu nous a placés? C'est cela que nous allons essayer de travailler ensemble cette année, individuellement et en tant que communauté. Nous sommes une lumière pour ce monde obscur lorsque nous mettons en pratique l'enseignement de Jésus. Si dans un an, après avoir revisité ces fondements du Sermon sur la montagne, nous n'avons pas progressé vers le baptême pour certains, vers la maturité chrétienne pour d'autres, c'est-à-dire vers une meilleure compréhension de qui est Jésus et comment il nous demande d'être radicalement différents, nous aurons raté quelque chose cette année. Je vous lance donc un défi. Cette semaine, priez Dieu en relisant ces versets ou en relisant le Sermon sur la montagne, ces 3 chapitres. Et regardez honnêtement où vous en êtes avec Jésus, avec son enseignement dans le sermon. Et dans un an, venez me dire, ou venez dire à un frère ou une sœur de confiance, qu'est-ce que le Seigneur aura changé dans votre vie? Parce que si dans un an nous n'avons pas bougé d'un pouce, nous aurons perdu un an de vie. Vous pouvez aussi noter dans votre lecture un verset de ce sermon pour lequel vous vous dites « Alors ça, j'y arrive pas. » Ou bien « Mais ce que Jésus dit là, c'est juste impossible à faire. » Notez ça et relisez-vous dans un an pour voir ce qui a changé. Alors, nous pourrons voir ensemble les belles œuvres que Dieu aura accomplies dans nos vies pour que notre entourage glorifie Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi, entendant ton appel à entrer et à persévérer dans ce cercle des disciples. Non pas pour former une élite de gens qui seraient meilleurs que d'autres, mais parce que nous voulons comprendre et vivre cette vérité que nous ne pouvons pas nous sortir de nos ténèbres et que nous avons besoin de ta lumière. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher cette année de toi qui est la lumière du monde pour vivre à ta lumière et briller de cette lumière autour de nous. Que les autres voient ce que tu changes dans nos vies et qu'ils puissent être intéressés, attirés par cette lumière, nous poser des questions et eux aussi être amenés par toi à changer de vie. Tu connais nos voisins, tu connais nos collègues, tu connais les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Tu connais aussi nos doutes, nos faiblesses, nos souffrances, nos péchés qui peuvent nous ralentir ou nous assombrir. Nous voulons ce matin te les remettre encore une fois et te demander de renouveler nos forces pour que nous puissions de nouveau briller avec force. Non pas nos forces, mais la force qui vient de ton Esprit Saint. Nous avons chanté tout à l'heure avec ton Esprit. Et c'est avec ton Esprit que nous voulons affronter les difficultés et vivre les joies que tu as préparé pour nous pour cette semaine et pour cette année. Dans notre vie à chacun et dans cette communauté qui existe ici depuis 20 ans. Continue ton œuvre ici au Blanc-Mesnil et montre-nous pendant cette année comment nous pouvons être sel et lumière pour cette ville. Amen.